l'étude de l'évangile de Jean. Et cette étude, nous la menons conjointement avec l'étude de la Genèse que nous faisons l'après-midi. Nous allons relire les 5 premiers versets du chapitre 1er de l'évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. À l'adresse de nos amis qui n'étaient pas là hier, je vais faire très brièvement un résumé de ce que nous avons médité hier. Nous avons d'abord remarqué ce premier mot de cet évangile qui correspond au premier mot de la Genèse, de la Bible tout entière, au commencement. Et nous avons dit que ce commencement n'était pas exactement le même que celui de la Genèse, puisque la Genèse nous fait assister à la création des cieux et de la terre. Or, il y a tout lieu de penser avec l'Écriture, nous avons vu dans le Proverbe 8 notamment, qu'il y avait des premières œuvres de Dieu, des œuvres antérieures à cela, à la création du ciel et de la terre, c'est-à-dire du cadre de vie de l'homme. Et ce commencement, c'est le tout premier commencement des œuvres de Dieu. C'est-à-dire avant qu'il existât quoi que ce soit, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait ? La parole. Était la parole, au commencement. Avant que Dieu ait agi, ait créé quoi que ce soit, il y avait la parole. Elle était là. Elle est incréée, cette parole. C'est nous mettre en présence, avons-nous dit, n'est-ce pas, de l'éternité. J'ai rappelé que le mot éternel, dans la langue, il faut savoir quel est le sens des mots qu'on manie et dont on se sert. Éternel, ça ne veut pas dire seulement qu'il va durer dans l'avenir sans fin, mais ça veut dire qu'il n'a pas eu de commencement. Consultez le dictionnaire et vous verrez cela. Par conséquent, nous sommes là, mise en présence de l'éternité. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était cette parole dont parle ici l'évangéliste Jean. Quelle est cette parole? Et nous avons été amenés à reconnaître que cette parole n'est pas un principe, n'est pas un moyen d'explication employé par l'évangéliste Jean, mais que cette parole est une personne. Une personne. Déjà là, nous voyons donc apparaître dans la révélation que nous donne Jean, cette révélation sublime de Jean. Jean a été conservé longtemps après les autres apôtres. Les autres apôtres, Pierre notamment, ont agi tout de suite. Lui, le Seigneur l'a laissé mûrir. « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne », avait dit le Seigneur. Et Jean a écrit son évangile, ses épîtres et l'Apocalypse, tout à fait à la fin, en dernier. Ce sont les derniers livres. Il avait mûri pour cela. Le Seigneur l'avait laissé mûrir un peu dans l'ombre. Et en effet, la partie de la révélation qui a été confiée à cet écrivain sacré, Jean, est sublime et magnifique. Elle touche au cœur même de la pensée de Dieu. Donc, nous sommes en présence ici d'une parole de quelqu'un qui est appelé parole, mais qui est une personne. La parole, donc, nous disons, était avec Dieu. Nous voyons donc ici deux personnes. Si la parole est une personne, Dieu est une personne, la parole était avec Dieu, voilà deux personnes qui étaient ensemble. Et tout de suite, Jean ajoute, mais la parole était Dieu. C'est quelque chose de mystérieux, quelque chose de bien difficile, certes à saisir, mais il faut d'abord l'accepter par la foi. Plus tard, dans le développement de vos connaissances, ces choses prendront leurs racines, vous les assimilerez, mais commençons par les accepter par la foi. La parole donc était avec Dieu et la parole était Dieu. Pourquoi Jean est-il poussé à nous dire cela? Parce que il va nous montrer la parole, qui est une personne, dans une œuvre qui lui est propre. Il va en quelque sorte, si vous voulez, l'éloigner de Dieu. Mais avant de le faire, il veut nous dire, attention, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Elle a la même identité que Dieu, bien qu'étant une personne séparée. Nous avons justifié cette conception qui est la seule conforme à la vérité, conception d'une parole qui est une personne, nous l'avons justifiée par différentes citations dans l'évangile de Jean. Précisément, nous avons cité notamment, je rappelle une seule de ces citations, Jean 17,5, et maintenant toi, Père, puisque Dieu ne pas reçoit ce nom de Père, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût mis en existence, j'étais auprès de toi et je disposais d'une gloire. C'est cette gloire que parle ici le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ parle ici hors de son humanité, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il parle d'un temps qui est antérieur à sa venue en chair, à son incarnation. Par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez là, ici, dans ce verset, très nettement, que Jésus, en tant que parole, en tant que fils, si vous voulez, mais laissons-lui cette désignation de parole, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean. Ben, nous étudions l'évangile de Jean, laissons-lui cette désignation de parole. Eh bien, cette parole, donc, est une personne qui s'exprime devant le Père, et qui rappelle qu'elle était là avec le Père, mais elle n'est pas à confondre. Ici, la révélation ne veut pas que nous confondions la parole et le Père, bien qu'ils soient un. Il faut au contraire, nous sommes invités à les distinguer. Et chers amis, si j'insiste là-dessus, c'est parce que d'ailleurs, il faut bien que nous comprenions ce début de l'évangile de Jean, il est tellement important. Mais en plus, si nous avions pu dans nos milieux évangéliques les bases sûres, solides, par enseignement de la parole de Dieu, nous ne verrions pas ce que nous voyons aujourd'hui, des gens portés à tout vent de doctrine. Des gens, n'est-ce pas, qui, parce que d'aucuns viennent d'ailleurs et leur parlent du baptême au nom de Jésus seul et démolissent ce qu'on a appelé la Trinité parce qu'on n'aime pas ce mot Trinité. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais je ne suis pas là pour lutter contre des mots, contre des moulins à vent. Mais nous sommes là, n'est-ce pas, pour nous mettre en présence des grandes réalités révélées. Eh bien, s'il y avait eu plus d'enseignement dans nos milieux, on n'aurait pas vu ce qu'on voit aujourd'hui, des gens emportés. Chers amis, c'est très beau d'évangéliser, c'est très bien. Mais dans notre mouvement, nous avons ce souci d'évangéliser, pas celui d'instruire. C'est M. Martel Roux qui l'a déclaré lui-même, il y a un an. Nos églises, a-t-il dit, sont exhortées, oui, mais non pas enseignées. Elles ne sont pas enseignées. Et combien, hélas, tragiquement, c'est vrai. Et si ces bases avaient existé dans le cœur
de ses frères et de ses sœurs qui se sont laissés surprendre, eh bien, ils auraient pu eux-mêmes résister à l'erreur et ne pas se laisser emporter. Donc, vous voyez combien ces choses, la connaissance de ces choses, la méditation de ces choses est nécessaire. C'est très bien, n'est-ce pas, d'appeler des gens du dehors, mais vous en appelez aujourd'hui beaucoup et il en vient de moins en moins. Pourquoi en vient-il de moins en moins? Parce que l'Église que nous avons actuellement n'est pas suffisamment solide, suffisamment ferme. Elle n'est pas ce milieu capable vraiment d'engendrer des âmes et de les conserver, de les faire progresser dans la vie. C'est pour cela. Et puis, disons aussi, c'est que les résistances dans le monde ont durci d'année en année. Elles durcissent ces résistances. Et il y a dans le monde actuellement des courants, une mentalité générale qui se fortifie sur la terre et qui est celle de l'Antichrist qui vient bientôt. Alors, bien sûr, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Et, chers amis, prêchez l'Évangile, n'est-ce pas, c'est très bien, allons à l'île, à la Guadeloupe. Nous y réussirons, j'y étais allé, moi, en 63, j'avais senti combien il était urgent de prêcher l'Évangile là-bas. Là, n'est-ce pas, la mentalité de la terre n'est pas établie encore. Vous allez en Afrique, dans certaines régions de l'Afrique, vous pouviez aussi y apporter l'Évangile avec grand succès. Jacques Giraud l'a fait. Mais M. Scott avait posé cette question. Pourquoi le même homme en Afrique a-t-il tant de succès et le même homme venant en France n'a plus aucun succès? Pourquoi cela? Est-ce parce que la France ou l'Occident sont des pays trop évangélisés? Non, c'est parce que la mentalité de l'Antichrist y est plus forte qu'ailleurs. Elle n'a pas encore suffisamment pénétré chez ces peuples qui n'ont pas d'instruction. Et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui leur avantage. Et ça, ils n'ont pas d'instruction, ces peuples de l'Afrique, et ils sont encore capables de souffrir à l'Évangile. Mais c'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps. Eh bien, chers amis, sachons que nous avons besoin, dans ces temps de la fin, d'une connaissance de la parole de Dieu. Connaissance mise en pratique, bien sûr, mais il faut la connaissance. Ainsi donc, la parole est une personne. C'est ce qui explique, n'est-ce pas, que nous puissions lire par exemple ceci. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous voyez deux dieux ensemble qui se parlent l'un l'autre. N'est-ce pas? C'est clair, c'est le psaume 45. Qui est repris dans l'Épître aux Hébreux, dans le commencement de l'Épître aux Hébreux. Tu aimes la justice et tu aimes la main. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Voilà donc, n'est-ce pas, le Dieu que nous appelons le Père, qui s'exprime à l'adresse de quelqu'un. Ce quelqu'un, dans les psaumes, est désigné comme le Fils, dans le psaume 2. Et ici, c'est le plus beau des fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais avant de naître parmi les fils de l'homme, celui-là existe déjà et son nom est la parole de Dieu. L'Apocalypse le dit d'ailleurs, chapitre 19, son nom est la parole de Dieu. C'est son nom, mais c'est une personne. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham, et bien entendu, les pharisiens, n'est-ce pas, de dire, comment tu n'as pas 50 ans, toi, et tu prétends que tu existais avant Abraham, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais oui, la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Mais la parole est une personne. Toutes ces choses se préciseront par la suite. Acceptons cela de l'Évangile de sang maintenant. Je ne sais pas si nous avons vu hier le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'est été sans elle. Nous n'avons pas vu le verset 3. Eh bien alors, nous allons voir ce verset 3 assez rapidement, mais il est important, chers amis. Il est important. Important, ce verset 3. Et je me demande pourquoi l'on ne sait pas dans nos milieux se saisir de ce verset. On se trouve en présence de gens qui raisonnent, il y en a. La terre en est remplie de raisonneurs, bien sûr. Il faut bien leur dire quelque chose. Il faut avoir la patience, reprendre, exhorter avec douceur, expliquer, enseigner, n'est-ce pas, avec douceur. Mais lorsque vous avez en face de vous des gens, n'est-ce pas, mais qui, bien sûr, se font l'écho de cette mentalité dont je parlais qui couvre la terre et qui est d'essence matérialiste, c'est-à-dire anti-Dieu, anti-Christ, anti-Dieu, eh bien, il faut notamment savoir citer ce verset. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Eh bien, n'est-ce pas, vous pouvez dire à un contradicteur, moi je m'en tiens à cette déclaration qui est sublime. Vous n'avez rien à m'apporter et qui puisse se placer sur un plan d'égalité ou même de supériorité vis-à-vis d'une telle proclamation. Toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous-même qui contredites Dieu en ce moment, eh bien, vous avez été créé par elle. Vous avez été mis au monde par la parole. Vous avez été formé dans le sein de votre mère par la parole de Dieu. C'est ça. Eh bien, voilà un argument fort. Ce n'est pas un argument de raisonnement, mais c'est un argument de proclamation dont il faut savoir se servir. Il faut connaître la force de tout cela. Or, souvent, ces versets-là, on ne s'en sert pas, on ne les utilise pas. Personnellement, je n'ai jamais entendu un chrétien utiliser cela. Je parcours des assemblées de Dieu. Partout, je rencontre soit des pasteurs, soit des chrétiens qui disent, vous savez, nous avons un tel, nous voudrions bien le faire venir, mais il raisonne, il nous dit ceci, cela, il se fait bien sûr l'écho de ce qu'il entend, de ce qu'il lit un peu partout, n'est-ce pas? J'entends cela en tous les endroits, dans toutes les villes. Et bien des pasteurs me disent, vous ne pourriez pas leur donner la réplique, vous ne pourriez pas quelque chose, leur dire quelque chose, ils en sont là, ils raisonnent toujours, n'est-ce pas? Alors on ne sait plus quoi leur dire. Eh bien, chers amis, la parole nous donne de quoi faire, j'ai encore employé un mot barbare, de l'apologétique. Oui, c'est un mot barbare, ça veut dire simplement la défense de la vérité. Il y avait dans l'Église primitive des hommes qu'on appelait des pères apologètes, c'est-à-dire des pères, des hommes qui tout de suite s'étaient aperçus, n'est-ce pas, que le diable avait dressé ses batteries tout autour et qu'il fallait combattre, il fallait accepter le combat. Vous marcherez sur toute la puissance des serpents et des scorpions, toute la puissance de Satan. Mais encore est-il qu'il faut marcher. Marcher avec quoi? Avec la parole. Qu'a fait le Seigneur Jésus devant le diable? Il s'est servi de la parole. Diamant, en connaissant, il a su, n'est-ce pas, citer ce qu'il fallait citer. Il est écrit, disait le Seigneur. Il est écrit. Sommes-nous capables de faire cette défense de la vérité? Ainsi, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait. Il n'existe rien qui ne soit le travail de la parole de Dieu. La parole, personne, la personne dont il est question ici. On peut dire aucun être, aucun esprit, aucun corps, aucun atome de la matière, aucun assemblage d'atomes n'est venu à l'existence qu'après avoir été conçu par Dieu et mis en existence par la parole de Dieu. La traduction tout à fait littérale du verset 3 est celle-ci. Au lieu de toutes choses ont été faites par elle, ça revient au même, mais c'est peut-être plus. Quand même, ça parle peut-être davantage. Toutes choses sont devenues par elle. Toutes choses sont devenues, n'est-ce pas? Et si vous voyez bien le sens de ce mot, devenu, toutes choses sont devenues. C'est-à-dire, sont passées du néant à l'existence. par elle, par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait, rien de ce qui est devenu, de ce qui est sorti du néant pour venir à l'existence, ne l'a été sans l'action de la parole de Dieu. Eh bien, voilà une déclaration, chers amis, qui est importante, qu'il faut savoir retenir et utiliser. La révélation de Dieu, vous le voyez, est réaliste. Et dans les siècles de christianisme qui nous ont précédés, on a détruit le réalisme biblique. Réalisme. Dieu est réaliste. Il n'y a pas plus réaliste que lui. Et il n'y a pas, comme par conséquent, de plus grand réalisme que la révélation de Dieu dans les Écritures. Nous allons maintenant venir au verset 4. En elle, c'est-à-dire dans la parole, cette personne était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Remarquez ceci, c'est que ce verset porte deux imparfaits. Était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y a donc là quelque chose qui est du domaine du passé. C'est bien ça, n'est-ce pas? Bon, ah, c'est pas difficile ce que je vous dis là, mais encore est-il qu'il faut le remarquer. Était, ce n'est plus la chose quand Jean écrit, la chose n'est plus, mais elle était, il signale quelque chose qui a été, qui a pris place dans le passé. Nous allons voir quoi. Le verset 4 pourrait être lu de cette manière. Dans la parole, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était. Dans la parole, il y avait la vie. Nous aurons l'occasion de revenir sur la présence de la vie dans la parole. Mais je voudrais déjà attirer votre attention sur cela. La parole est une personne, nous venons de le dire, et dans cette personne, par conséquent, il y a quelque chose. Quelque chose qui est appelé ici la vie. La vie est là. Dans ce même évangile, au chapitre 5, Jésus aura l'occasion de dire « Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. » Donc la vie est en lui-même. N'identifions pas, par conséquent, Dieu et la vie, puisque la vie, c'est quelque chose qui est dans, en Dieu ou en la parole de Dieu. N'est-ce pas? Quelque chose qui est à la fois dans le Père et dans le Fils. Par conséquent, si quelque chose est dans, ce n'est pas, on ne peut pas identifier ce quelque chose avec la personne elle-même. Je vais là au-dedans d'une erreur encore commise. Hein? Me prenant souvent des versets d'une façon, les utilisant d'une façon trop littérale, hein? On a fini par identifier Dieu. Dieu est la vie. Mais Dieu est au-dessus de la vie. Allons. Dieu possède la vie par excellence. Mais il possède, mais il est au-dessus, Dieu est au-dessus de tout. Et si vous identifiez Dieu et la vie, vous limitez, vous rabaissez Dieu, quoique la vie soit quelque chose d'immense, de magnifique. Dieu est au-dessus de tout. Et il faut bien ne pas laisser Dieu à sa place. Il domine le temps, il domine tout ce qui existe, il domine même la vie. Mais la vie, il en est tout. Et il en est le maître. La vie, il faudra que je consacre un temps à vous l'expliquer, lentement, parce que j'ai eu l'occasion d'interroger, comme ça m'arrivera peut-être si vous interrogez, ça c'est chaud. Nous avons des exercices à faire, mais nous l'avons fait l'an dernier. Et il est arrivé d'interroger donc des personnes, des frères, des sœurs, sur la vie, et d'entendre les réponses, des réponses très incomplètes, souvent même aberrantes. Ce qui m'a montré une chose, c'est que on prend ce mot, on le lit dans les évangiles, et il y est abondamment dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? On entend des déclarations du Seigneur Jésus qui portent ce mot, n'est-ce pas? Celui qui a le Fils à la vie, directement passé de la mort à la vie, puis on ne sait pas ce que c'est que la vie. Avouez que c'est un peu extraordinaire. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas demandé à Dieu et à l'Écriture, et à l'Esprit de Dieu et à l'Écriture de nous renseigner là-dessus. Nous avons laissé, en somme, la chose passée. Oui, la vie, ben, on se contente d'une petite notion qu'on en a, la petite notion ordinaire qu'on en a, mais elle est incomplète, elle n'est pas bonne. Il y a une notion biblique de la vie qu'il faut connaître. La vie véritable, c'est quelque chose d'immense. Et si nous la connaissions, mes amis, la vie, eh bien, il arriverait certainement ceci, c'est que nous ne verrions pas parmi nous tant de chrétiens attachés plus à leur existence sur la terre qu'à cette vie véritable qui a son prolongement dans l'éternité, mais qui nous est déjà donnée ici-bas. Or, je vois, écoutez, je suis obligé de le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On voit des gens beaucoup plus attachés à l'existence terrestre, qu'on appelle la vie, et que à cette vie qui est en nous et qui doit nous projeter, nous engager dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'éternité. Alors, si nous savions la valeur de la vie dans la bouche du Seigneur, la vie, eh bien, si nous savions la vie, celui qui croit en moi a la vie éternelle, eh bien, si nous avions vraiment connaissance de cette grande chose qui est le don de la vie par Jésus-Christ, il me semble que nous serions plus facilement détachés de quelque chose de précaire, de quelque chose qui nous retient précisément loin de la véritable vie qu'est l'existence de la terre. Et pour comprendre ce mot vie, donc je ne vais pas m'y attarder tellement aujourd'hui, mais je me réserve, je vous préviens, je me réserve de vous parler de la vie. Il faut que je vous en parle, parce que nous sommes, je vous l'ai dit, n'est-ce pas, désireux, pendant cette retraite, de nous instruire essentiellement sur le thème création, salut et vie. Ah, voilà notre thème. Alors, nous avons la Genèse à l'étude, nous avons l'Évangile de Jean, nous aurons encore quelques autres livres, et nous allons nous informer de du vice, peut-on dire, de la révélation de Dieu. Pour comprendre le mot vie, il faut d'abord distinguer, comme je viens de lui faire allusion, entre l'existence et la vie. Voyez-vous, bibliquement, il y a une différence. Et cette différence est très sensible. Seulement, la Bible ne nous donne pas de définition, ou très peu. Elle nous donne une définition de la foi, dans les Hébreux, par exemple. Mais pas de définition de l'amour, pas de définition de la vie, pas de définition de la justice, pas de définition de la sanctification. Vous ne trouvez pas de définition dans l'Écriture. Pourquoi cela? La Bible ne veut pas nous enseigner d'une manière didactique, c'est-à-dire comme des écoliers. Ce ne sont pas des matières d'enseignement, des connaissances humaines. Ce sont des connaissances qui viennent de Dieu, connaissances qui s'adressent au cœur. Eh bien, il n'y a point de définition, mais la connaissance de l'ensemble des Écritures vont former en nous les notions attachées à ces mots justice, sainteté, sanctification, vie, amour, etc. Ces notions vont se construire, autrement dit, la vérité va se construire dans nos cœurs. Si nous méditons la parole dans son ensemble, non pas une partie déterminée, mais toute la parole, jour et nuit, nous n'aurons pas trop de temps pour faire tout cela. Jour et nuit, médite-la jour et nuit. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit dans sa saison. Et son feuillage est resplendissant.
Et le Seigneur s'ajoutait,
tout ce qu'il fait,
il réussit. Alors, le secret du succès dans ce monde, du succès dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, c'est là. D'être comme cet arbre planté qui va prolonger ses racines jusque dans le cours d'eau. Et le cours d'eau, ce sont les fleuves d'eau vive, l'Esprit de Dieu, plonger ses racines là et s'y nourrir. L'existence et la vie sont deux choses différentes. Un être vivant a été, qui est créé reçoit l'existence. Il reçoit l'existence. Mais la vie, c'est une puissance immatérielle, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et je vous montrerai comment on peut rapprocher la vie physique, la vie des corps, de la vie spirituelle. Et combien aussi nous sommes dans l'erreur souvent en établissant arbitrairement des séparations entre ce qui est charnel, disons-nous, à tort souvent, ou ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Un seul mot seulement pour vous montrer que nous sommes dans l'erreur souvent. La mort du Seigneur Jésus, qu'est-elle? Une mort dans son corps. Dans son corps, c'est la matière de son corps qui meurt. Une mort dans son corps. Christ a fait don son corps. L'Épître aux Hébreux le précise bien, n'est-ce pas? Mort quant à la chair et vivant quant à l'esprit du ciel. C'est une mort dans son corps. Et chers amis, y a-t-il un acte plus spirituel que celui-là? Qui est la source d'une bénédiction spirituelle qui, depuis des siècles, redescend en pluie de salut sur les hommes. Et c'est un acte qui s'inscrit dans la matière. Parce que Christ, quant à sa divinité, n'est jamais mort. Dieu ne meurt pas. Mais il est mort quant à son corps, vivant quant à l'esprit. Mais en tant que fils de l'homme, il est mort. Et c'est cette mort, c'est cette souffrance dans un corps d'homme. Nous aurons l'occasion de sonder ces choses et de les mettre au grand jour. Eh bien, c'est cela, cet acte qui est éminemment, si vous voulez, un acte le placé dans la matière. C'est cet acte-là qui est source de bénédiction spirituelle. Le salut des âmes tient à cela. Le salut des âmes. Vous voyez par conséquent que entre ce qui est physique et spirituel, méfions-nous. Méfions-nous, n'est-ce pas, entre ce qui est matière et esprit. Nous avons des distinctions absolument fausses et arbitraires. Et cela, toujours la même chose, parce que nous n'avons pas eu suffisamment d'enseignement. C'est le défaut d'enseignement qui fait cela. Chers amis, si Dieu me dit « Retire cet objet et mets-le ailleurs », si c'est Dieu qui me le dit, je le fais. C'est un geste qui se situe sur la terre. Eh bien, si c'est Dieu qui m'a dit, je fais quelque chose de spirituel. De spirituel. Ça, c'est spirituel. Et si je déplace cet objet moi-même de ma propre initiative, le même geste, et vous en trouverez des exemples dans l'Écriture, eh bien, c'est charnel, c'est pas spirituel, parce que c'est moi qui l'ai voulu. C'est pas Dieu. Vous comprenez? Ce qui est spirituel, c'est ce qui est de la volonté de Dieu. Même si ça doit s'accomplir et s'exécuter dans le registre des choses matérielles ou terrestres. Eh bien, j'en reviens à l'existence. L'existence, donc, n'est-ce pas, c'est ce que reçoit un être qui a été créé. Quant à la vie physique ou spirituelle, elle est une puissance immatérielle. Une puissance immatérielle, une puissance. Je ne peux pas lui donner un autre mot. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais acceptons cela pour l'instant. Nous verrons que cette puissance est invisible par elle-même. Nous verrons tout cela, étudierons. Mais cette puissance,
immatérielle, par sa présence, maintient l'existence des êtres créés. Voyez-vous, la vie, c'est donc plus que l'existence, puisque l'existence peut prendre fin, mais la vie, elle continue, elle. C'est ça. Et nous en arriverons ainsi à justifier ce que le Seigneur veut nous montrer. Mais qu'est-ce que ça peut faire que des gens tuent le corps du moment que l'âme, elle, n'est pas tuée, n'est pas mise dans la mort, n'est pas jetée dans la géhenne? Qu'est-ce que ça peut faire? Ils ne peuvent rien faire de plus que tuer votre corps, monsieur. C'est pas bien grave. Hein? C'est la vie du Seigneur. C'est pas toujours le nôtre. Mm-hmm. Pas toujours le nôtre, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus que ça, ils ne peuvent rien faire de plus. Ceux qui ont martyrisé des hommes de foi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit leur corps. Et puis quoi? Ils les ont introduits plus vite dans la vie véritable et éternelle. N'est-ce pas? Par conséquent, attention, la vie, c'est quelque chose qui est à pied d'œuvre, qui est là, en doute, puissant, qui maintient l'existence, aussi bien l'existence physique que l'existence, si vous voulez, a toujours l'existence véritable, qu'on appellerait, si vous voulez, l'existence de l'âme, et l'âme qui est promise à une résurrection. Ça. Ainsi, la vie est beaucoup plus que l'existence. Vous comprenez? La vie n'est pas que principe de vie. Il y a des gens qui sont en existence. Et que dit la parole d'eux? Ils sont morts dans leurs offenses et leurs péchés. Ils sont morts. Ce sont des morts vivants. Ce sont des gens qui ont un petit élan de vie physique. Et puis c'est tout, leur âme est dans la mort. Leur âme touche au séjour des morts. Alors, ces gens-là, eh bien, la parole leur est adressée pour les vivifier, le salut. Mais tant qu'ils ne sont pas vivifiés, ils sont des morts vivants. Ils existent, si vous voulez. Mais ils existent pour mourir. Ils vont vers la mort. Ils se dirigent vers la mort. L'existence et la vie, vous comprenez la différence? Que la vie, c'est ce principe qui émane de Dieu comme une puissance, maintenant l'existence. Et quand nous vivrons dans l'éternité, je souhaite que vous viviez tous, qui êtes ici et d'autres avec, eh bien, lorsque nous vivrons dans l'éternité, chers amis, pourquoi connaîtrons-nous l'éternité? Parce que le Seigneur aura mis en nous une vie qui ne se perd plus, qu'il ne retirera plus, vous ne pourrez plus mourir. Vous serez comme les anges. Nous verrons les conditions de cela, mais Dieu le fera, n'est-ce pas? La vie est plus que l'existence. Apprenons cela et ne nous intéressons pas à l'existence terrestre surtout de nos pauvres personnes. Intéressons-nous à la possession de la vie. Vous voyez comme ce distinguo est nécessaire, comme c'est utile de sonder les choses, parce que ne sans quoi nous faisons de notre appartenance à l'Évangile, nous faisons une religion, simplement, une autre religion, tout simplement. Or, il ne faut pas que nous soyons des gens qui ont une religion, ce n'est pas de la religiosité que le Christ nous a apporté, c'est le don de la vie, ce don de la vie qu'il veut que nous retenions en nous. Saisis la vie éternelle, saisis-la, dit Paul à Timothée. Pourtant, il est sauvé, Timothée, à ce moment-là. Oui, saisis-la, garde-la bien, accroche-toi à cela. N'est-ce pas? La vie est plus que l'existence. Et le verset 4 exprime donc qu'après avoir été mis en existence, les hommes avaient le plus impérieux besoin de la parole personne, pour maintenir en eux la vie et les garder en existence. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'était avant la chute. C'était les dispositions prises par Dieu en faveur de sa créature nouvelle, l'homme, et l'humanité qui allait sortir de lui. En elle était la vie. Si tu avais su ça, ô homme,
si tu ne t'étais pas laissé prendre un conseil pernicieux, si tu n'avais pas mis à la place de la parole de ton Dieu qui t'avait dit « Ne mange pas de cela, de ce fruit », si tu n'avais pas mis une autre parole qui te dit « Mais mange donc, parce que tu verras, tu deviendras comme des dieux, vous viendrez comme des dieux », n'est-ce pas ? Si tu n'avais pas fait cela, eh bien tu avais cette assurance que la parole qui est la fille était ta lumière à toujours. Tu aurais eu cette parole qui ne t'aurait pas abandonné, mais qui t'aurait constamment tenu par la force de Dieu dans la vie. Tu ne serais pas mort. Mais autrement, il y avait le verdict de Dieu. Si tu touches à ce fruit, tu mourras. C'est-à-dire la parole de Dieu, alors, cessera de jouer son office pour toi. Si l'homme était resté saint, la vie véritable, totale, ne lui eût jamais fait défaut. Mais Dieu doit dire aux hommes qu'ils sont morts à cause de leurs offenses et de leurs péchés. La vie était la lumière des hommes. La notion de lumière dans la Bible, c'est encore, vous voyez, une chose qui n'est pas définie. Voilà encore quelque chose, nous ne trouvons pas de définition. Et cependant, la notion doit se préparer, se construire dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, le Paraclet, ça vous conduira dans toute la vérité, a dit Jésus, dans tout, exactement, textuellement, dans toute la connaissance de la vérité. Rien ne restera dans l'ombre pour vous si vous suivez le Paraclet, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour redonner des émotions et pour faire parler en langue, si bon que cela soit, puisque Dieu l'a voulu ainsi, ou pour faire prophétiser, c'est excellent aussi, ou pour qualifier, c'est très bon, tout cela c'est nécessaire, mais ce sont des voies, des moyens. Ce sont des voies. Tandis que le Saint-Esprit a bien d'autres missions à remplir auprès de nous. Vous conduire dans toute la connaissance de la vérité. Vous faire sonder les profondeurs de Dieu. Viens avec moi, c'est le guide envoyé par Dieu. Une fois que Christ a implanté son ministère sur la terre et est retourné au Père, alors je vous enverrai le Consolateur, le Paraclet. Et lui, il va vous conduire, c'est le guide de Dieu, il va vous conduire dans ce domaine, dans ce palais magnifique de la vérité. Il va vous faire découvrir toutes ces splendeurs pour vous amuser, pour visiter cela comme on visite un musée. Non, mais parce que vous en avez besoin, parce que la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sanctifie. La vérité. Vous ne pouvez pas être sanctifié sans la vérité. Il vous conduira dans la connaissance, toute la connaissance de la vérité. Eh bien, la notion de lumière est difficile à saisir. Je ne me propose pas ce matin de vous la faire comprendre par définition. Ce n'est pas ce que Dieu veut. J'en dirai quelque chose, mais nous en reparlerons de cette lumière. Vous verrez ce qu'elle est par rapport à la vie. Disons simplement que cette l'expression lumière, le mot lumière ici, c'est une expression très riche, qui ne veut pas dire, comme d'aucuns l'ont pensé, que c'est une vie morale seulement, n'est-ce pas? La notion de lumière serait une notion morale à leur créer, n'est-ce pas? Vie dans la lumière, ça veut dire une vie morale. Oh, mes amis, alors... Nous tombons de bien haut. La morale, c'est une chose nécessaire. Mais c'est le moins qu'on puisse demander. Il y a des gens qui ont la beauté morale et qui ne sont pas les enfants de Dieu. Il y en a. Il y en a eu plus dans les temps passés qu'aujourd'hui, que tous corrompent. Mais il y en a encore. Il y en a encore. Il y a des gens plus charitables que vous, parmi les enfants de ce siècle. Il y a des gens plus charitables que nous. Il y a des gens qui font peut-être plus de fautes pour les autres que nous, qui se dévouent davantage. Il y a des gens qui sont honnêtes. Il y a des gens qui ont ce souci de la morale. Mais ils ont refusé la parole. Et ils n'ont pas Dieu. C'est une chose difficile à comprendre, peut-être, cela. Et les gens du monde ne comprennent pas, n'est-ce pas? Avec l'héritage du romanisme qui a faussé toutes les vues. Alors, dans l'Église catholique, on vous dit, les œuvres, pourvu que vous ayez... Et les œuvres, ce sont des œuvres, pour ainsi dire, morales et charitables. Alors, pourvu que vous ayez fait ça, vous serez sauvés. Combien c'est faux! Pour être sauvé, il faut avoir la vie, et il faut la recevoir de la parole. N'est-ce pas? Il faut avoir la vie, et c'est seulement cela. Donc, la lumière, ce n'est pas une vie morale, bien que la vie morale soit quelque chose qui entre dans la lumière, si vous voulez, dans une vie. N'est-ce pas? Elle doit entrer, il faudrait que nous ayons bien sûr une vie morale, mais il y a bien plus que cela. Il y a bien plus, il y a bien mieux que cela. Vous savez, la beauté morale, j'appelle ça la beauté morale. Et la beauté spirituelle, la beauté de l'esprit, ça fait deux choses différentes. Un enfant de Dieu qui a Christ en lui, qui a l'esprit de Christ, qui est né de nouveau, il a la vie. Il a la vie. Nous verrons ce que c'est que d'avoir la vie. Je le répète, nous verrons. Il a accédé à la vie. Il a été promu à la vie. Il n'est plus ce qu'il était avant. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est différent. Différent de ce qu'il était. Il a cette beauté que nous aimons à chanter dans nos cantiques, la beauté de Christ. N'est-ce pas? Que ta beauté soit en nous, n'est-ce pas? Nous chantons ça quelquefois. Eh bien, cette beauté-là est toute différente, peut-être à regarder, elle est différente en nature, mais elle peut être comparée à une beauté morale. Il y a des hommes vraiment qui sont extraordinaires sous le jour de la morale et qui ne sont pas sauvés. Mais dans la nature, nous aurons l'occasion de nous intéresser beaucoup à la nature. Pourquoi? Mais parce que dans la nature, il y a aussi une révélation de Dieu. Et il ne faut pas la négliger. Romains, l'Épître aux Romains nous y invite à voir, à discerner les richesses de Dieu, les actes, les œuvres magnifiques de Dieu dans la nature. Et dans la nature, vous pouvez trouver des choses qui sont belles sans avoir la vie. Par exemple, vous avez des pierres précieuses. Des pierres précieuses, dans certaines régions, vous voyez des roches, n'est-ce pas, elles sont ouvertes, elles sont fendues, c'est magnifique, il y a un éclat, une lumière, lorsque le soleil donne dessus, n'est-ce pas, c'est beau, incontestablement, c'est beau. C'est beau, mais c'est mort. C'est mort, c'est du caillou, c'est de la roche, ça n'a pas la vie. À côté de cela, vous aurez dans le même paysage une petite marguerite, sans prétention. Ben, c'est beau aussi. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, que la roche ne soit pas aussi belle que la petite marguerite. Mais la petite marguerite, elle a la vie. Elle tient sa beauté de la vie. La roche, elle tient sa beauté de, bien sûr, celui qui l'a faite, mais elle est dans la mort. Et par cette comparaison, je voudrais vous faire comprendre quelque chose qu'il faut savoir. C'est que on peut avoir une certaine beauté morale et n'avoir que cela, et rester dans la mort par les offenses, parce qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu, parce qu'on n'a pas voulu accepter l'affranchissement qu'apporte Christ, on n'a pas voulu se repentir, on n'a pas obéi à l'Évangile, alors on reste en dehors de la vie. Ce qui est cher est cher, on reste cher, ça ne peut pas changer. Il peut y avoir une beauté qui attire peut-être davantage, la beauté morale quelquefois, attire davantage les regards que la beauté spirituelle. Parce que la beauté spirituelle est plus difficile à découvrir. Mais de l'autre côté, n'est-ce pas, dans la petite marguerite, il y a la vie. Et dans un enfant de Dieu, il y a la vie. Et c'est cette bonté-là qui doit être mise excellemment en évidence. La vie était la lumière des hommes. Nous aurons l'occasion, avons-nous dit, de revenir sur cette notion de lumière. Mais retenons ceci, la vie était la lumière des hommes. La vie véritable, donc, était la lumière des hommes. Le verset 5 nous dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Là, on terminait par ce verset. « La lumière luit dans les ténèbres. » Qu'est-ce à dire? Eh bien, la vie véritable, apportée par la parole, personne, qui est une personne divine, la vie véritable apportée par la parole, qui devait être maintenue parmi les hommes, soutenue. Nous avons dans les Colossiens, nous avons dans les Hébreux, cette assertion magnifique qu'il faut saisir, n'est-ce pas? C'est que Christ, qui est la parole de Dieu, cette chair, eh bien Christ soutient toute chose par sa parole vivante. Il soutient, il maintient en existence. Et c'est ce qui aurait été fait dans l'humanité. La lumière luit dans les ténèbres. C'est un report, bien sûr, à la Genèse. Voyez combien il est intéressant d'étudier la Genèse en même temps que l'évangile de Jean. Du côté de la Genèse, nous allons voir essentiellement la création physique, la création matérielle. Et du côté de Jean, nous allons voir surtout, alors, la création nouvelle. La création, si vous voulez, le retour à la vie véritable, le travail de l'esprit. Eh bien, donc, la vie véritable, c'était le vœu de Dieu, l'intention de Dieu, qui avait été apportée par la parole, devait être maintenue par cette parole, et elle était la lumière des hommes. Or, cette lumière jaillit au sein des ténèbres. Dans la Genèse, n'est-ce pas, nous voyons que la terre était couverte de ténèbres, nous verrons cet après-midi, et puis Dieu dit, et la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut, la lumière jaillit du sein des ténèbres. Eh bien, c'est ce qui s'était passé. Les ténèbres avaient été dissipées, écartées par ce jaillissement de lumière. Et cette lumière, les hommes l'ont dédaigné, l'ont laissé de côté, ils ne l'ont point reçu, ils n'en ont point voulu. Et dans le monde actuel, c'est la continuation de ce péché d'Éden. Le monde n'en veut pas de la lumière. Il ne veut pas de ce qui est essentiel, de ce qui est primordial. Il ne veut pas de ce qui ferait son bonheur, de ce qui ferait sa force, de ce qui ferait de lui vraiment des dieux, car la parole à ceux à qui elle a été adressée, c'est Christ qui le rappelle, n'est-ce pas? Eh bien, ceux à qui la parole a été adressée sont appelés des dieux, des fils de Dieu. Eh bien, l'homme n'a pas voulu de cela. Là, il y a là une puissante leçon pour nous. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons conscience d'avoir besoin de cette lumière? Le grand besoin, cette lumière apportée par le Christ. Et la recevons-nous réellement, chers amis? Je pose cette question. La recevons-nous réellement? Si nous la recevons, nous sommes engagés dans la sanctification. Si nous ne la recevons pas, nous ne sommes pas dans la voie de la sanctification. Si nous ne connaissons pas la valeur, la richesse, si nous ne sentons, n'avons pas la soif de cette lumière, nous ne pouvons pas être en voie de sanctification. Et ça, c'est une chose éminemment regrettable. C'est une chose terrible, tragique même. Attention, dans l'Église, c'est entendu, la lumière est venue faire son œuvre parmi nous, mais il faut la recevoir, non pas une fois, non pas dire, oui, Seigneur, je suis à toi maintenant, ça t'appartient, et puis après, vive n'importe comment. La lumière, c'est quelque chose qui ne peut rester que là où est la vie véritable. La vie, c'est la lumière des hommes. La vie véritable, la vie nouvelle, si dans notre cœur, il y a cette vie nouvelle, la vie de Christ même, eh bien, il y a la lumière. Mais encore est-il qu'il faut que nous voulions la lumière. Si cette lumière, nous ne la recevons pas et nous ne la maintenons pas, eh bien, nous ne pourrons pas plaire à Dieu et nous ne pourrons pas vraiment déclarer que nous sommes en voie d'être sauvés. La parole, principe de vie, indispensable lumière des vivants, a été refoulée par une humanité adoptant un autre conseil que celui de Dieu, et c'est alors que les ténèbres vinrent sur la terre comme une masse nuageuse tout à coup dans un ciel d'azur vient obscurcir le soleil. La masse nuageuse est arrivée là. Les ténèbres ont envahi la terre alors que l'humanité refusait, repoussait, refoulait la lumière des vivants. Ah, c'est quelque chose de tragique. Voyez, Jean veut jeter un jour nouveau. Il veut nous montrer l'horreur de cette chose. Le côté tragique, épouvantable de cet acte qui s'est situé à l'oreille de l'humanité, refouler, repousser, ne point recevoir la lumière des vivants. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, les hommes ne l'ont point reçue. Ils se sont à nouveau sentis plongés, enfermés au sein des ténèbres. Le soleil de justice s'est voilé, s'est caché. Les ténèbres sont venues de fortes masses ténébreuses, nuageuses, sont venues couvrir le ciel. Et le ciel est fermé, il est fermé. Ah, il faut que la lumière jaillisse du sein des ténèbres. Il faut que celui qui vient et qui est la parole de Dieu puisse dire, eh bien désormais vous verrez le ciel ouvert au-dessus de la tête du Fils. Et les anges pourront aller vivre. Vous verrez le ciel ouvert, car ces masses de ténèbres, ces masses nuageuses seront percées. La venue du Seigneur. Mais pour nous préparer à bien comprendre, à bien peser toutes ces choses, à bien assimiler, suivons méthodiquement l'enseignement que nous donne la parole de Dieu, et notamment cet évangile de Jean, si riche, si magnifique, de puissance surnaturelle. Amen.